Hey, tampoco bala, tu que truca, tu que taca, tu que toca, tu que diga, tu que raca, tu que digo, ragunana, bebe, mi nuca, petit, capuru. En cuero y copa, tu que truca, tu que taca, tu que toca, tu que diga, tu que raca, tu que diga, ragunana, bebe, mi nuca, petit. Tampoco bala, tu que truca, tu que taca, tu que toca, tu que diga, tu que raca, tu que digo, ragunana, bebe, mi nuca, petit, capuru. En cuero y copa, tu que truca, tu que taca, tu que toca, tu que diga, tu que raca, tu que digo, ragunana, bebe, mi nuca, petit.
C'est l'histoire d'un self-made man, un homme qui s'est fait tout seul, ou presque, qui voulait tout apprendre par lui-même, au risque de se planter, qui voulait se prouver qu'il pouvait le faire, et qui n'avait pas le temps d'attendre, de réfléchir, d'anticiper. Il fallait faire corps avec la vigne, tout de suite, engager son corps, sentir dans ses mains les nervures du bois, écraser la peau des raisins, voir le jus couler. C'est l'histoire d'un empressement, d'une passion, d'un coup de tête, d'un têtu. Quand la vie, comme une montée de sève, vous ordonne de quitter les rayons feutrés de la cave à vin familiale pour aller travailler la terre à 800 km de là. Enfant, il n'était pas spécialement technique, pas du genre à démonter un moteur ni petit génie de l'informatique, il se rêvait plutôt pâtissier. Pourtant, quand il a fallu se mettre à la vigne et aux vinifications, tout est devenu un jeu, un défi, une énigme à résoudre. Il fallait qu'il y arrive, quitte à se lever en pleine nuit, à prendre sa voiture et rouler jusqu'à sa cave pour vérifier s'il n'avait pas oublié de fermer une cuve, si la fermentation ne patinait pas, s'il ne serait pas nécessaire de la faire repartir avec son levain. C'est l'histoire d'un homme qui cherchait sa place, ne tenait pas en place, un homme soutenu discrètement par un amour solide, à l'accent persan, qui trouve son endroit et décide d'ouvrir le chapitre du reste de sa vie. Adicias Bravemund et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Glou Glou sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud et également sur Radio Languedoc Narbonne. L'émission qui s'intéresse aux vins vivants et qui fait le portrait de celles et ceux qui le font se poursuit et balade son micro du Larzac jusqu'aux Corbières et nous sommes aujourd'hui dans le studio de RPH à Saint-André-de-Sangonis en compagnie de Gauthier Olivier, anciennement domaine Les Serres de Merly à Berlou et dorénavant domaine Meigoun à Roquebrun. Et c'est ce nom sur Orbe. Adicias Gauthier.
Adicias.
Vous allez nous raconter votre parcours, l'évolution de votre domaine que vous êtes en train d'installer sur les bords de l'Orbe. Et pour nous aider à découvrir votre travail et vos vins, je suis accompagné aujourd'hui de Corinne Escafitte, cave aux vins vivants à 7. Adicias Corinne.
Adicias.
Et de Frédéric Lambeuf, le Picamandi, la puce Salicon. Adicias Fred.
Adicias.
Frédéric Lambeuf, exceptionnellement, dans votre chronique, vous ne nous emmènerez pas croquer dans un fromage ou une glace, mais en balade dans les vignes.
Oui, après la table et les fêtes, je vous propose une petite balade digestive dans les vignes des Trois Mazets à Villeverac pour une discussion autour de l'agroforesterie.
Merci Frédéric Lambeuf, toujours attentif à l'installation de nouveaux vignerons, comme vous l'avez fait d'ailleurs il y a quelques années avec Gauthier Olivier, on en reparlera. Et vous Corinne Escafitte, qu'avez-vous lu aujourd'hui?
Alors aujourd'hui je vais évoquer un livre qui cause, c'est un livre d'entretien avec Jacques Néoport, intitulé Jacques Néoport, le dilettante, et par ricochet on évoquera également la revue qui édite ce livre, le trimestriel Le Rouge et le Blanc.
Très bien, nous retrouverons vos chroniques un peu plus tard dans l'émission, mais pour le moment je me tourne vers notre invité, Gauthier Olivier, à qui je pose la première et rituelle question de l'émission. Pour vous, c'est quoi un vin nature?
Ah, alors là c'est une réponse simple, bah, c'est un vin libre, un vin sans intrants bien sûr, ça c'est le côté on va dire facile, parce que sans intrants ça veut tout et rien dire, mais c'est surtout un vin qui exprime réellement sa provenance, son terroir et sa lisibilité en fait gustative. Voilà, pour moi c'est ça un vin.
Super, très bien. Ben, nous allons reparler au cours de cette émission de votre travail, de vos méthodes culturales et de vinification. Mais avant cela, je vous propose que l'on parle un peu de vous et de votre parcours. Alors Gauthier et Olivier, vous avez grandi au milieu de bouteilles de vin, puisque votre père était et toujours d'ailleurs caviste.
Oui.
Sa boutique s'appelle le Clos Michel à Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne. C'est là que vous avez appris à aimer le vin?
Alors, bien avant la cave, oui, puisque le Clos Michel a été créé en 2012. Mais oui, avant, dans les fêtes de famille, surtout le dimanche, quand il y avait une côte de bœuf ou un petit plat à la maison un peu plus technique fait par la famille, bah, mon père avait tendance à nous appeler avec des verres de vin pour venir boire l'apéro. Donc, ça commençait avec des apéros dînatoires le dimanche midi en famille.
Voilà. D'accord. Et est-ce que vous vous souveniez d'une bouteille en particulier ? Qu'est-ce que vous goûtiez à cette époque-là ?
Ouf. Ah bah, il y avait beaucoup de Gramenon hein, à la maison, il n'y avait pas que des grands noms, hein, mais il y avait du Angros par exemple en Bourgogne, il y avait pas beaucoup de nature en fait, hein, à part des fois des Beaujolais de chez La Palue, il y avait tout à boire, il y avait du Richard Leroy aussi, voilà, plein de choses en fait.
Et vous souvenez de vos premières émotions en tout cas en goûtant certains de ces vins ou...
Ah oui, tout à fait, ouais. Oui. Alors moi, ma première émotion, c'était pas un vin nature, c'était justement une cuvée marine de chez Angros. Mais après, ça a beaucoup évolué et je me suis fait un palais un petit peu à l'écart de ce que pouvait me proposer mon père les années qui ont suivi, donc voilà, ce qui a fait qu'on est un peu différent.
D'accord. Aujourd'hui. Cela dit, dans une forme de logique, au départ, vous avez d'abord entamé des études de commerce pour être à votre tour caviste.
Oui.
Ce que vous avez fait, notamment dans la cave familiale.
Oui, mais j'étais très mauvais, mais oui, j'ai eu ce passage.
Vous étiez un mauvais caviste.
Non, enfin, je suis pas très bon vendeur de base.
Mais je crois que vous aimiez bien partager vos coups de cœur quand même. Ça, c'est quelque chose qui vous plaisait.
J'aimais ouvrir les bouteilles, voilà.
D'accord. Ça, et les déguster, quoi.
Et les déguster.
Vous étiez dans un lieu qui vous le permettait.
Exactement, ouais.
D'accord.
Tout à fait.
Alors, malgré tout ça, ou à cause de tout ça, je ne sais pas, au bout de 6 ans, vous avez décidé de partir, de quitter le métier de caviste et la cave familiale. Pourquoi ?
Je pense que j'ai eu un ras-le-bol de la vie parisienne avant le Covid, hein. Ouais. Bien avant, donc avant l'heure. Mais surtout pour me prouver, comme vous l'avez fait au début de la chronique, vous l'avez bien expliqué, me prouver à moi-même que j'étais capable d'autre chose et d'autres aspirations dans ma vie, voilà, tout simplement. Et revenir à quelque chose de beaucoup plus essentiel et, enfin voilà, m'équilibrer en fait. Voilà. Pour moi, ça passait par le travail de la terre et le vin, c'était quelque chose d'essentiel pour moi. Donc voilà. La tangente a été vite faite. Quoi.
Pour votre père, ça n'a pas été trop dur ce départ ?
Non, il était content, je pense. Parce que...
fallait couper le cordon là, entre le père et le fils.
Oui, bah, j'étais déjà bien âgé. Enfin, bien âgé, j'avais là 25-26 ans. Mais oui, je pense qu'il était content et fier. Oui.
De vous voir voler de vos propres ailes et de nourrir un nouveau projet, donc de s'installer comme vigneron.
Voilà.
Pour cela, vous avez réussi à vous inscrire dans un BPREA à Montpellier, à Agropolis, c'est ça ?
Oui, voilà, c'est ça exactement. Enfin, c'est un BPREA, donc c'est un bac professionnel en fait qu'on fait en un an, où on apprend un peu les bases de l'œnologie, de la viticulture. Enfin, c'est un condensé en fait de savoir en un an. Donc,
et vous avez apprécié cette formation ?
Oui, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup appris. Et d'ailleurs, je trouve qu'ils font un travail remarquable. Hein, d'ailleurs, dans tous les BPREA, ça permet à beaucoup de personnes qui souhaitent se réorienter dans le milieu agricole de pouvoir le faire à n'importe quel âge. Donc rien que pour ça, c'est des... Voilà, chapeau.
D'accord. Même s'il y a quelques cours que vous avez reçus là-bas qui, quand vous vous êtes mis à faire votre vin, vous ont pas trop servi, c'est le moins qu'on puisse dire.
Bah, on va dire en 2014-2015, on parlait pas trop du nature, comme on en parle aujourd'hui. Le vin bio, bon, on en parlait un petit peu, mais on le susurrait à peine. Et c'est vrai que les cours, bah oui, c'était très orienté sur des vins de
vinification conventionnelle.
Exactement, hein. Voilà. Mmh. Ou comment travailler en coopérative, par exemple. Mmh. Voilà, ce qui était vraiment à l'opposé de ce que je voulais mettre en place.
Pendant cette année Montpellier-Rennes, vous passiez vos week-ends à parcourir la région et découvrir le vignoble avec quoi, l'idée de trouver un endroit où s'installer ?
Oui, il y a ça. Souvent, le week-end, oui, je partais, je prenais la route et je regardais un petit peu comment étaient foutus les raux. Je ne connaissais pas trop. Et puis, j'ai découvert pas mal de choses. Il y a plein de choses qui m'ont interpellé. Et puis, à un moment donné, fallait bien se poser quelque part. Donc, j'ai attendu qu'il y ait le coup de cœur, en fait. Voilà.
Et vous n'avez pas cherché ailleurs, quoi ? Vous étiez là, ou est-ce que, je sais pas, d'autres régions viticoles de France, vous y avez pensé ou pas du tout ?
Alors, non, en fait, j'ai plein de défauts, mais j'ai une qualité, c'est que je suis très fidèle. Donc, la région qui m'a donné l'opportunité de m'installer, c'était l'Hérault. Donc, pour moi, c'était important que je m'installe dans l'Hérault, quoi. C'était un retour de pièces, quoi.
Et donc, ce coup de cœur, vous l'avez un jour dans le terroir du Saint-Chinianais,
oui.
À Berlou.
Tout à fait.
Racontez-nous un peu cette arrivée, qu'est-ce que vous avez vu ?
Oh bah écoutez, bah, je suis arrivé en fait vraiment comme un Parisien quelque part, c'est pas un défaut, hein. Mais j'ai vu un terroir à couper le souffle, une vue sur la femme allongée, des panoramiques extraordinaires en amont sur les vignobles du Saint-Chinianais. Quand on monte, dans les avant-monts, on voit des voilà, il y a une vue quand même qui est quand même à couper le souffle.
Des vignes en coteaux.
Voilà et quand j'ai vu ces vignes, pour moi, c'était une révélation. Voilà. Mais je ne m'attendais pas du travail qu'elle allait avoir derrière quand même, parce que c'est quand même un travail très difficile en coteaux, parce que quand on décide de faire un vignoble en bio ou biodynamique, enfin, c'est-à-dire sans machine ou le minimum de machine, ça demande beaucoup d'efforts physiques. Il faut les assumer à l'année. Mais c'est vrai que c'était plutôt des vignes carte postale, donc ça fait rêver beaucoup de rêveurs, et j'étais un rêveur à cette époque-là.
En effet, tout est allé très vite, hein, BPREA en 2014-2015, et dès 2016, première vinification à Berlou. Oui. Très vite, presque avec le recul, vous me dites presque trop vite, hein, vous vous êtes rendu compte aujourd'hui que vous n'aviez peut-être pas tout anticipé, pensé toutes les étapes de la chaîne de production, notamment la partie commercialisation, mais vous vouliez vous prouver rapidement que vous étiez capable de faire du vin et de faire ce métier ?
Oui, c'est ça, tout à fait. Hein. Je suis comme un gros têtu, hein. Vous l'avez bien dit tout à l'heure. C'était pour moi, voilà, il fallait que j'avance. Et moi, quand j'avance, c'est vrai que je ne regarde pas trop ce qui se passe autour. Donc, je voulais absolument me tester. Quoi. C'était vraiment le... Ouais.
Parce qu'il fallait valider ce choix, quoi. Ce choix de faire vigneron, le valider par...
Voilà. Puis le crédit aussi.
Ouais, tout à fait. Et donc, vous avez travaillé tout de suite... très vite pour vous, pour votre compte, vinifiant, signant déjà vos bouteilles. Vous avez finalement fait peu de stages, n'avez pas réellement eu de mentor dans le métier. Vous avez beaucoup appris par vous-même.
Beaucoup, oui. Alors après, c'est vrai que ça m'arrivait souvent quand même d'appeler certains vignerons qui pouvaient se rendre disponibles pour me donner des conseils. À Berlou, il y avait quand même quelqu'un que j'avais oublié de mentionner, c'était quand même Jean-Marie Rimbert, qui n'est pas du tout dans le bio, hein. Enfin si, qui est bio, mais qui n'est pas dans nature à fond, mais qui m'a beaucoup aiguillé. Ça m'est arrivé des fois de tailler un petit peu pour lui, mais c'est quelque chose de très factuel, quoi. Mais oui. Après, j'ai eu l'occasion de parler beaucoup avec Yannick Pelletier aussi, et c'était plutôt des conseils pour me rassurer, c'était pas des conseils pour me positionner, en fait.
Oui, quand la plupart des jeunes vignerons commencent par aller travailler longtemps chez quelqu'un pour observer, se faire la main, vous avez commencé tout de suite et demandé des conseils pour tester. Je crois que vous avez, les premières années, testé toutes les vinifications possibles.
Oui,
pour trouver votre voie, il fallait explorer, quoi. C'était l'atelier du vigneron.
C'est ça. Les peu de gens qui me connaissent par rapport à ça. J'ai testé pas mal de choses, des ratés et puis des réussites. Mais bon, voilà, je me suis forgé aussi là-dessus, quoi. C'est-à-dire que même dans les échecs, dans des vinifications complètement farfelues, j'ai trouvé du positif et j'ai réussi à, quelque part, à me stabiliser, on va dire, aujourd'hui, quoi, dans ce que je veux faire.
Et du coup, en effet, vous avez engrangé de l'expérience, mine de rien, et si bien que 6-7 ans après, vous savez un peu plus sûrement ce que vous voulez. Et d'ailleurs, ce que vous voulez, récemment, vous avez décidé de changer de terroir. Après avoir travaillé donc ces vignes à Berlou, vous avez décidé de redescendre un peu dans la vallée, vers Lugné, Sassenon-sur-Orbe.
Tout à fait.
Pourquoi donc ce changement ?
Le dos. Voilà, réponse courte. Oui, mais c'est tout à fait ça, en fait. C'est, au bout d'un moment, si on veut durer dans le milieu agricole, il faut aussi adapter ses outils de production. Et les outils de production, c'est aussi la topographie, l'orientation des vignes, enfin le terroir, enfin tout ça rentre en ligne de compte.
Donc des vignes dures à travailler. À Berlou.
Voilà. C'est plus. Alors il y en a des accessibles, bien sûr, mais bon, ceux qui sont en vente, souvent c'est
les plus durs.
Bien sûr. Ouais. Voilà. Donc faut tomber sur avec d'expérience sur les bonnes opportunités, sur des terroirs un peu plus, comme vous l'avez dit, en aval, et des fois on trouve des très belles choses et j'ai eu la chance de tomber sur un très beau terroir.
Racontez-nous ce que vous avez trouvé à Lugné, près de Sassenon-sur-Orbe, où vous avez acquis 3 hectares de vignes d'un seul tenant.
Exactement, voilà. Donc, en fait, on est sur 4 encépagements. Donc, on est sur du Carignan, du Cinsault, Grenache, Syrah, et donc en rouge, et un cinquième encépagement, c'est le Grenache blanc. Voilà. Et donc on est sur un terroir de schiste, puisqu'on est vraiment sur les pas d'une Odèche, en direction de Cessenon. Et c'est assez marrant parce que c'est assez complexe comme terroir, puisqu'on est très proche de l'Orbe, donc on a beaucoup de calcaire et de dolomite. Enfin voilà, c'est une complexité de terroir qui fait que c'est intéressant pour l'avenir. Dû aux aléas climatiques, on a des sols qui arrivent à conserver de l'humidité, donc ça c'est très bien, contrairement au schiste de coteaux, et on est sur un terroir voilà, principalement terroir à blanc ou rouge léger, donc voilà, donc c'est
qui correspond à ce que vous avez envie de faire maintenant,
qui correspond bien sûr, voilà, oui, et puis on est sur aussi des vignes qui ont quand même 40 ans, donc je pense que c'est le moment aussi d'en tirer le meilleur.
On ira faire connaissance avec ces vignes un peu plus tard dans l'émission, puisque je suis venu vous y rencontrer, donc on amènera les auditeurs un peu en balade dans ces vignes pour les connaître un peu mieux. Pour finir sur votre parcours, je voudrais rappeler peut-être que en faisant du vin, vous renouez avec une tradition familiale, puisque votre père est lui-même issu d'une famille de vignerons d'Alsace.
Oui, ça j'en parle pas beaucoup, mais oui, c'est vrai, mon père est issu d'une famille, la famille de mon père, plus précisément, qui est une vieille famille alsacienne de plusieurs siècles, voilà, de père en fils, donc... Oui.
Vous m'avez dit que le vin, cela ne se faisait pas tout seul, donc il y a peut-être un peu de cette lignée alsacienne dans vos bouteilles, peut-être un peu de votre père. il y a aussi quelqu'un qui compte beaucoup, c'est votre femme.
Oui.
Sarah, ou plus exactement Saharnaz Anghi, son vrai prénom en persan, car elle est iranienne,
oui.
Et qui vous accompagne beaucoup, dont vous prenez souvent la vie, et qui d'ailleurs vous a soufflé le nom de votre nouveau domaine,
oui.
Meigoun. Alors nous l'avons rencontré lors de notre visite chez vous, on l'écoute quelques instants. Alors, on est avec Sarah, la femme de Gauthier, et Gauthier m'a dit que le vin, ça se faisait pas tout seul. Ouais. Et donc, quel est ton rôle dans sa vie de vigneron ?
Ouais, comme je te disais tout à l'heure, franchement, je pense qu'il est modeste parce qu'il fait tout seul. Sauf que moi, je suis là pour goûter son vin, donner mon avis et des fois, juste donner un coup de main, quoi. Dans la vinification, souvent, il est tout seul, dans les vignes un petit peu, quand j'ai le temps, et voilà, dans la cave aussi, de temps en temps.
Toi, tu aimais le vin, tu t'intéressais au vin avant de le connaître ?
Oui, et surtout parce qu'en fait je viens de l'Iran, donc l'Iran c'était un pays toujours le vin dans la poésie, dans notre histoire, dans notre culture, vraiment on a eu toujours ça, et c'est vrai qu'on peut pas dire qu'on n'aime pas le vin, quoi, c'est la vie.
Alors tu parles de tes origines iraniennes, je crois que le nom du domaine justement, que vous avez baptisé ensemble, c'est un mot iranien ?
Oui, exactement.
Meigoun,
oui, c'est persan, oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Et Mei, ça veut dire le vin. Et Meigoun, ça veut dire quand t'es libre du vin, quand t'es ivre. Et quand t'es, c'est une manière de dire que t'es ivre du vin. C'est un mot très utilisé dans les poésies. Et même, c'est un village autour de Téhéran qui s'appelle Meigoun.
Est-ce que c'est facile de vivre avec un vigneron ou est-ce que c'est beaucoup de stress ?
Oui, c'est vrai que c'est bien parce qu'on est toujours dans la nature, proche de nature. C'est bien, mais en même temps, c'est vrai que ça pourrait être bien stressant. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça pourrait être bien stressant. Surtout, il y a des périodes dans l'année c'est stressant. Mais en global, je pense que ça va. Je préférais vraiment ça que... rester dans une grosse ville, voilà. Ça me convient assez quand même, finalement, maintenant.
Merci.
Merci à toi.
Saharnaz Anghi, dite Sarah, la compagne de Gauthier Olivier, qui a donc, Gauthier, décidé de ne plus mettre son nom sur les bouteilles, mais de signer à partir de maintenant Meigoun.
Oui. oui, c'est vrai. C'est une décision, en fait, qui a été prise un petit peu à la volée, mais c'est vrai que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait jamais un vin tout seul. J'ai vraiment voulu accentuer avec ma femme le côté familial maintenant du domaine, même si comme elle le dit, elle est pas tout le temps avec moi, mais voilà, elle prend beaucoup de son temps pour me supporter, donc
elle méritait d'être aussi sur la bouteille.
Bien sûr, bien sûr.
Frédéric Lambeuf, vous connaissez Gauthier Olivier depuis ses débuts, mais peut-être avez-vous quand même une question supplémentaire à lui poser sur son parcours.
Oui, une fois en discutant, tu m'avais dit que tu avais vinifié des raisins pour un ami et après ça, tu t'étais rendu compte finalement que les vignes t'avaient manqué. Et je crois que pour toi, ça a été un déclic. Et voilà, si tu veux nous en parler un petit peu.
Oui, en effet, j'ai eu une petite période juste après Covid où j'ai vinifié des raisins en ville. Et oui, ça a été un déclic quelque part, puisque ça a été un reboost pour moi, en fait. Hein. Ça a été un rebond de me dire que je ne me voyais nulle part ailleurs que dans mes vignes. Finalement, ça a été un test pour moi, encore une fois. Ma vie n'est que de test, de toute façon. Donc là, ça a été vraiment une confirmation de me dire non, finalement, moi, ma vie, elle est auprès de mes vignes et elle est nulle part ailleurs, en fait.
Voilà. Et qu'il est important de vinifier ses propres raisins, donc de maîtriser, oui, l'ensemble du processus.
C'est très important, c'est très important. Parce que faire du vin, ce n'est pas juste presser du jus et te dire « allez hop, je fais du vin ». Faire du vin, c'est une vision, c'est un travail. Et la passion, elle ne se transgresse pas, en fait. Il faut aller au contact. Et le contact, il n'y a pas de secret, c'est aller tous les jours. Mmh. Et tous les jours se lever et le faire avec passion. Voilà.
Merci. Maintenant que nous vous connaissons un peu mieux, Gauthier Olivier, nous allons parler de votre travail à la vigne et à la cave. Mais avant cela, une pause musicale. C'est vous qui avez choisi le titre. Je vous laisse nous l'annoncer.
Alors, c'est le groupe M83, un groupe d'électro. Le titre, c'est Outro, de l'album Hurry Up, Rail Dreaming, de 2011.
Voilà. C'est parti.
Thank you.
Outro M83 sur Radio Languedoc Narbonne, Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous êtes dans Glouglou avec les chroniqueurs Corinne Escafitte de la cave au vin vivant à 7, Frédéric Lambeuf du Picamandi La Puce à Licon, et nous recevons aujourd'hui Gauthier Olivier, domaine Meigoun à Roquebrun dans l'Hérault. Alors Roquebrun, c'est le lieu de votre cave, plus précisément le hameau d'Escagnès. En tout cas pour le moment, car vous comptez vous rapprocher de vos vignes qui se trouvent aujourd'hui à Lugné, tout près de Cessenon-sur-Orbe, où en arrivant souvent vous aimez écouter justement cette musique. Vous écoutez, vous nous le disiez hors antenne, oui, vous aimez écouter de la musique en travaillant.
Oui, tout à fait, oui. Ça m'arrive beaucoup.
C'est pour rentrer en vibration, en connexion avec vos cèpes.
Ouais, carrément, il y a ça. Et il y a aussi une deuxième raison, c'est qu'il y a un chenil à côté.
Et que c'est bien plus agréable
d'écouter
de la musique.
C'est bien plus agréable aussi, voilà. Ouais.
Donc, ouais. Outro, vous nous avez dit, pour vous, c'est quel moment de la journée?
Pour moi c'est le lever du soleil, quoi. C'est le moment où on part dans l'espace, quoi. Ouais.
C'est... Très bien. Eh bien alors on va aller en balade dans vos vignes. Donc un vignoble un peu particulier, puisque vous venez juste d'acheter ces vignes il y a quelques mois, et elles ont la particularité de ne pas avoir été travaillées, taillées, récoltées pendant un an ou deux, et que donc il vous faut maintenant les restructurer pour en faire votre vignoble.
Exactement.
Donc ça part du moment de la taille là, de maintenant, et justement je suis venu vous rencontrer dans vos vignes et vous allez nous expliquer ce travail particulier de restructuration tout en nous décrivant le paysage de cette vallée de l'Orbe.
Ici, là, on est sur, voilà, typiquement le cas typique d'une vigne qu'il faut restructurer. C'est, vous pouvez le dire, c'est vraiment un nœud, quoi. Ouais. c'est un peu compliqué. On voit vraiment
il y a des sarments qui partent dans tous les sens.
Et on voit surtout que c'est vraiment vidé l'année dernière.
Ah oui, il y a beaucoup de raisins.
Même des abeilles qui restent sur les grappes mortes. Donc c'est pas forcément une bonne chose. C'est pour ça qu'il faut vraiment, faut pas hésiter à aller sur une taille beaucoup plus rase et vraiment bien sélectionner ses bourgeons pour la faire repartir et pas trop la brusquer, quoi. Parce que il faut vraiment retaper.
Il faut l'éclaircir un peu, c'est ça ?
Il faut l'éclaircir, oui. Ouais. Oui. Même retirer beaucoup de bois. Vous voyez, ça, c'est des bois que je vais enlever. Ça, c'est des bois que je vais enlever. Ça, c'est des bois que je vais enlever. Là, ici aussi, je vais peut-être faire repartir qu'ici. Je vais peut-être entourer pour recouper autour, pour faire repartir vraiment au cœur. Il y a quand même pas mal de boulot. Donc, la taille est beaucoup plus longue que d'habitude.
Devant chaque souche, il faut réfléchir un peu, du coup.
Il faut tout réfléchir, là. Ouais. Alors, déjà, à la base, on réfléchit, mais là, c'est on se fait un théorème de Pythagore à chaque souche, quoi.
Savoir dans quel sens on veut que ça parte.
C'est exactement ça, voilà. Alors après,
et c'est que intuitif ou ça peut se baser sur quoi tu te bases?
Moi, je pense que c'est un peu les deux, en fait. Hein. Bien sûr, il faut lire la sève, on le voit par rapport aux nervures. Mm-hmm. Voilà, qu'est-ce qui serait plus intéressant? On le fait partir par le bas où on voit que c'est beaucoup plus... on est sur un bois d'un an ou repartir sur le bois de deux ans? Bon, là, après, ça se réfléchit, mais repartir sur les bourgeons de couronne et laisser un œil, des fois, c'est pas mal pour faire repartir un bois, par exemple. Okay. On le voit en suivant les nervures, quoi. Et voilà, c'est des remises en question à chaque fois. Mmh. Voilà. Mais moi, honnêtement, je préférerais partir limite du bourgeon qui a démarré à même le bois l'année dernière, vous voyez. Par exemple, là, c'est peut-être plus intéressant, parce que là, au moins, elle est plus franche. Là, vous voyez, la montée de sève est beaucoup plus franche. Voilà. Je pense que là, c'est vraiment plus adapté ici, quoi. Voilà. Après, ça dépend vraiment de chaque souche.
Ouais.
Chaque souche est différent.
Tu peux nous décrire l'endroit un peu, là? On est au milieu de tes vignes.
Et là, on est sur une plaine, hein, quelque part. Hein, c'est assez plat, mais on est entouré par les contreforts. Donc, d'une part, Saint-Chinianec est en face. Nous avons l'Orbe qui traverse la partie est du vignoble qui va en direction de Cessenon. Et vous avez la trouée en face ici. Donc là, vraiment, la partie est, on est vraiment sur la trouée de Roquebrun. Et derrière les montagnes qui entourent mes vignes, côté nord, on est sur, le Nodèche qui est beaucoup plus haut, là. Donc, mm-hmm. Qui est derrière cette colline. Donc voilà, on est vraiment entouré de mini contreforts sur un espace relativement plat. Voilà, on est entre le terroir de schiste de... On est vraiment à bifurcation entre le terroir de schiste de Roquebrun, les lacets du Lorbe, de l'Orbe, et les contreforts du Saint-Chinianais, quoi. On est vraiment entre tout ça, quoi.
C'est vrai qu'on se sent vraiment presque protégé tout en étant sur une plaine. Là, on est entouré de collines, de hauteurs. C'est sûrement la vallée de l'Orbe, là, justement, qui a créé cet espace-là.
C'est tout à fait ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve encore un petit peu ici des sédiments de l'Orbe, hein, qui sont dans le sol. Vous voyez, nous avons ici des espèces de dolomites. Voilà. Du schiste, je sais pas si on peut pas trop le... Voilà, ça c'est du schiste par exemple, on le voit tout de suite, c'est des éclats assez grossiers. Voilà, c'est un mélange de tout ça en fait. On est sur un sol où on peut le voir qui est assez ressuyable parce qu'on est sur des... On est sur une terre qui est relativement riche. Vous voyez par exemple sur les rangées là, on arrive à avoir de l'herbe grasse. Ça c'est le genre de choses que je n'avais jamais sur mes vignes sur Berlou. Donc ce qui prouve qu'il y a une richesse déjà de voir de l'herbe grasse, c'est qu'il y a assez d'argile pour que l'herbe s'y installe et fasse une rétention d'eau, quoi, naturellement. Donc ça c'est quelque chose que je vais garder et que je vais essayer de cultiver.
Il y a déjà dans les vignes là donc pas mal d'herbes, ça promet un beau couvert végétal là.
Exactement, alors après il y a des parties plus riches que d'autres forcément. C'est pour ça que peut-être que la première année il y aura plusieurs tontes pour essayer de ralentir les vivaces, parce qu'il y a toujours des vivaces. Mais après, ça sera du travail qui se fera d'année en année à la taille, au pied, retirer quelques herbes pour limiter le maximum la concurrence et la prolifération de l'herbe grasse. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui va se faire d'année en année. Donc voilà, donc ici, on est sur le grenache. Donc là, bon, il faudra tout restructurer, mais il y a un beau travail. Là, on voit que c'est une vigne qui a beaucoup de réserves. Vous voyez, il y a eu énormément de départs. Là, on peut refaire un bras et on sent qu'il y a encore beaucoup de vitalité dans les souches. Donc ça sera quelque chose d'assez facile à récupérer et qui pourra être bien productif dès cette année, je pense, dès l'année prochaine. Voilà, on peut aller voir tout au bout. Donc là, ici, on a le Carignan à droite. Voilà, et à partir d'ici, nous sommes sur le Cinsault.
Ok.
Voilà. Donc, ça fait quand même une belle parcelle de Cinsault. Ouais, ça c'est beau, ça, vous voyez ?
Ouais.
Ça, on sait que ça part partir. Alors là, peut-être que l'idée, ça sera de repartir plutôt vers la base pour rééquilibrer sur le fil. Mais là, ça, c'est quelque chose qui posera pas de problème, on voit tout de suite. C'est.
Petite balade technique, mais néanmoins poétique, hein, dans les vignes de Gauthier Olivier à Cessenon-sur-Orbe, où on voit tout le travail, les questions que se pose un vigneron qui est en train de rebâtir son vignoble.
Oui, tout à fait.
Et est-ce que vos méthodes culturales vont changer par rapport au travail sur les vignes en coteaux de Berlou, mis à part que ça fera un peu moins mal au dos?
Ah bah oui, tout à fait, ça va forcément changer, oui. Déjà, dans la difficulté, oui, déjà ça change, mais aussi avec la vision qui n'est plus la même. Donc, et puis j'espère changer aussi, même dans les années à venir, et me remettre en question et continuer à le faire.
Vous évoquiez notamment la question de l'enherbement qui était difficile réellement à avoir à Berlou, où là vous parlez tout de suite d'un couvert végétal beaucoup plus dense, beaucoup plus important,
oui.
C'est ça ?
Oui, oui.
Et sur lequel vous comptez du coup dans l'équilibre de votre vigne
Ah bah oui, pour l'avenir, tout à fait, oui, pour l'avenir. Après voilà, c'est des vignes qui ont quand même besoin, comme qui étaient à la coopérative, hein, de façon, donc comme beaucoup de vignes dans la région. Il va falloir un moment d'adaptabilité, en fait, que la vigne s'adapte aussi à la concurrence, mais à faible, avec l'herbe grasse, et qu'elle apprenne, en fait, avec les aléas climatiques, à s'autosuffire avec les besoins, les besoins en sous-sol. Donc ça va se faire avec le temps.
Alors, pour avoir un autre éclairage sur ce terme de la biodiversité dans les vignes et de la culture en agroforesterie, je passe la parole à Frédéric Lambeuf, qui est allé à la rencontre d'un vigneron tout récemment installé du côté de Villeverac dans l'Hérault. Frédéric, c'est à vous.
Oui, alors avant de rejoindre les vignes Les Trois Mazets à Villevérac, petit passage à la cave autoconstruite en bois de la région. Luc Fonta n'a pas franchi le pas côté levure indigène, mais ce n'est qu'une question de temps, car à la vigne, il est 100% nature. Ingénieur, spécialiste de l'eau, la nature le fascine. En 2019, l'oncle de sa femme lui cède une parcelle. Il a beau prévenir qu'il la travaillera différemment, l'ancien, voyant les herbes pousser, lança désespéré « Je ne veux plus voir cette vigne ». À l'inverse, le premier compliment viendra au vendange de son voisin en conventionnel qui le félicitera. Et il me le disait, il en a encore la chair de poule. On arrive à la parcelle qui n'est pas encore taillée, la vigne est conduite sur le fil, dans les graminées foisonnent et quelques frênes poussent de ci de là. Entre les rangs, le sol est couvert d'herbes différentes, il y pousse de nombreux champignons et turricules de vers de terre. Le paillage d'anciens fauchages les nourrit et il laisse au passage ces amas de terre digérées riches en humus et bactéries, facilitant la décomposition des nutriments. Leur galerie lubrifiée favorise l'écoulement des eaux et le passage des racines. Et le saviez-vous, leur lubrifiant contient de l'azote. Le logiciel de la nature est ainsi fait qu'une friche ou armasse, comme on dit ici, doit, si rien ne l'en empêche, se transformer au stade ultime en forêt auto-fertile. Sauf que cela peut prendre jusqu'à 1000 ans. Alors l'homme, par ses interventions systématiques et contraires, casse cette chaîne vertueuse et passe son temps et son argent à essayer de la copier, et certains de ses gestes nourrissent les problèmes qu'il cherche à résoudre. Comme le dit Luc, si entre l'armasse et la forêt, il y a des centaines d'étapes, son rôle est de faire avancer la vigne au niveau 25 en un minimum de temps, quand la viticulture classique la maintient sans le vouloir au niveau zéro. Donc les premières années, il faut aider le sol avec un couvert végétal en semant les graines de trois familles d'herbes. En variant le plus possible les espèces, on évite une deuxième monoculture. Plus il y a de la diversité, plus il y a d'équilibre et mieux il y a d'automédication. Les légumineuses, trèfles, luzernes, févroles, fixent l'azote de l'air pour la restituer au sol. Les graminées, seigles, orge, avoine, apportent de la paille et du carbone qui fixent l'azote. Et enfin, les crucifères, colza, radis fourragés ou moutarde décompactent le sol. Tout cela va faciliter le développement des vers de terre, mycorhizes et insectes auxiliaires. Les passereaux et autres animaux vont revenir apportant leur lot d'azote non négligeable et de la biodiversité. En climat méditerranéen, mieux vaut privilégier le fauchage des herbes que le rouleau, en évitant idéalement le tassement du tracteur. La taille, comme toute intervention, doit être réfléchie. Luc a adopté la taille physiologique, qui consiste à ne tailler que les bois de l'année. La vigne a un système vasculaire comparable à un système hydraulique de 20 bars de pression. Lorsque l'on taille du bois ancien, on sectionne le système qui se désamorce. On contraint la sève à forcer le passage à travers le bois qui servait de réserve. Et la plante perd le bénéfice de son âge et repart comme si elle n'avait qu'un an. Les vignes carte postale sont taillées comme des haies. Pourtant, l'apex, la tête chercheuse de chaque plante, contient la mémoire de la plante et est reliée au système racinaire via l'auxine, l'hormone qui contrôle le développement de la plante en surface et dans le sol. Si on le coupe, on envoie un signal d'alarme qui met la plante en mode défense et le développement racinaire en stand-by. Luc fait le geste des anciens, il tresse des rameaux entre eux, et plutôt l'après-midi, car le matin, gorgés d'eau, ils sont plus cassants. Il peut alors passer et pulvériser les oligo-éléments dont a besoin les vignes, tout en faisant attention à la qualité de l'eau qu'il utilise. L'ensemble de ces actions est dicté par une seule stratégie, aider le couple vital sol-plante sans utiliser ses réserves. Tous ces petits gestes tendent chaque aliment disponible sans effort, comme dans un self. La viticulture moderne fait l'inverse. Elle donne à manger dans un coffre-fort et tout le milieu s'épuise à l'ouvrir avant de pouvoir manger. Lorsque le couple sol-plante est respecté, la plante fait son sol et se développe au mieux. Après seulement 3 ans, Luc ne traite plus ses vignes, ni en soufre, ni en cuivre. Sa famille lui dit en chambrant qu'il devrait faire prof, mais son plaisir, c'est d'échanger autour d'une barrique en faisant déguster sa première cuvée qu'il a produite, le 1 Vincent, sans rien à la vigne et sans sulfite à la cuve. Donc c'est le domaine Les Trois Mazets, Luc Fonta, Villevérac.
Merci Frédéric Lambeuf pour cette découverte du domaine des Trois Mazets à Villevérac et pour cette plongée donc dans l'agroforesterie, cette recherche d'un équilibre de la plante dans son environnement. Ça doit vous parler, ça, Gauthier Olivier?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je suis assez surpris d'entendre ce genre d'aventure. Quoi, ça m'interpelle. C'est quelqu'un qui arrive à ne pas traiter à la vigne et à être 100% sans rien. Enfin, je trouve ça très remarquable et c'est inspirant.
Très bien. Voilà une nouvelle recherche pour vous pour les prochaines années. Il sera bientôt temps de déguster vos vins, Gauthier Olivier du domaine Maygoun, mais avant cela une deuxième pause musicale. Je vous laisse nous annoncer le deuxième titre.
Eh ben, en fait, c'est une reprise de la chanson révolutionnaire italienne Bella Ciao par une révolutionnaire iranienne, voilà.
Bello ciao, bello ciao, bello ciao, 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا خاک این گندم تو خیابونه یه خشم من و تو تشنه یه بارونه حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یه آغازه پنجره تا رویا بازه از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا
بلا چاو en persan par Yashgin Kiani sur Radio Languedoc Narbonne, Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous êtes dans Glouglou avec Corinne Escafitte, Frédéric Lambeuf, chroniqueur, et nous recevons aujourd'hui Gauthier Olivier, domaine Meigoun à Roquebrun dans l'Hérault. Alors, avant la dégustation de vos vins, Gauthier, un peu de lecture. Mm-hmm. C'est la chronique Les livres que j'aime sur les vins qu'on aime de Corinne Escafitte.
Oui, alors aujourd'hui, on va parler du livre Jacques Néoport, le dilettante, un entretien avec Hélène Bertin et César Chevalier, paru aux éditions Le Rouge et le Blanc en 2022. Donc ce mois-ci, je vous propose de découvrir un livre à l'approche plus facile que celui du mois dernier, qui était assez dense, mais tout aussi important, me semble-t-il, quand on s'intéresse aux vins tendance nature. C'est un livre d'entretien, sous forme de dialogue donc, ce qui en rend la lecture assez fluide et vivante. Il donne la parole à Jacques Néoport, œnologue et disciple de Jules Chauvet, ce dernier étant considéré comme le père des vins naturels en France. L'ouvrage est assez logiquement publié par la revue Le Rouge et le Blanc. Assez confidentielle, cette revue animée par un collectif d'amateurs, amateurs au sens étymologique du terme, celui qui aime, est financée exclusivement par ses abonnés et ses lecteurs, ce qui lui confère une grande liberté et donc une réelle crédibilité. Elle existe depuis 1983 et défend depuis sa création les vins de terroir menacés par des pratiques mortifères à la vigne comme au chai. Elle traite avec un grand sérieux des vins sincères, respectueux de la nature, des terroirs, du vivant et des humains qui les font et qui les boivent. L'amateur de vins naturels y puise donc infos, notes de dégustation, pistes de réflexion. Et même s'il existe des lectures plus légères et amusantes sur le sujet, et dont on se fait souvent l'écho ici, ce trimestriel mérite largement d'être consulté. La vision du vin, de la vigne à la cave, que défend Le Rouge et le Blanc, est en pleine adéquation avec la pensée et les pratiques de Jacques Néoport, pionnier des vinifications naturelles. C'est donc tout naturellement que la revue s'est associée à la nouvelle édition de ce livre d'entretien, après une première micro-édition confidentielle. Même si l'on défend souvent ici le principe selon lequel le vin se fait à la vigne, le parcours et les propos de Jacques Néoport, qui n'est pas vigneron, mais bel et bien œnologue, en cela qu'il conseille des vignerons lors de la vinification, mais ne travaille pas les vignes, regorge d'enseignements et d'anecdotes éclairantes pour l'amateur. Né en 48, c'est par curiosité et intérêt pour le vin que le jeune homme qu'il était s'est mis à visiter le plus de vignobles possible, à travailler avec des vignerons, à écrire sur le vin. L'aspect artisanal du métier est ce qu'il privilégie avec les rencontres humaines et les liens qui se font entre artisans, entre passionnés. Au début des années 1980, la rencontre avec Jules Chauvet est déterminante. Vigneron et négociant dans le Beaujolais, mais aussi chimiste de formation, Jules Chauvet expérimente les premières vinifications sans soufre et initie d'autres vignerons dès les années 80, notamment la bande du Beaujolais, mais pas que. Jacques Néoport devient ainsi le principal disciple de Jules Chauvet et diffuse auprès de nombreux vignerons les savoirs et les pratiques défrichées auprès de lui, hochés comme dans des recherches scientifiques, notamment sur les fermentations et le rôle des levures, processus encore mal connu à l'époque. C'est en cela qu'il est un œnologue, terme qu'il a longtemps récusé, à l'époque où les œnologues servaient à maquiller le vin, à le corseter. Aujourd'hui, cela évolue, et même lorsque le vigneron travaille sans artifice, sans soufre, mais aussi sans autre intrant, l'œnologue peut être le conseiller, l'accompagnateur, le regard extérieur-intérieur, comme disait joliment à ce micro il y a un an Hervé Chabert, ami et œnologue du vigneron Régis Pichon. Le livre, passionnant et facile à lire malgré la complexité de certains des sujets abordés, s'accompagne d'une iconographie mémorielle. Photos de vieux outils manuels, de gestes ancestraux, de soins à la vigne ou de vinification, mais sans sombrer dans un passéisme ou une nostalgie inutile, plutôt comme pour inscrire le propos dans son histoire réelle et incarnée. La dernière réponse de l'entretien constitue une joyeuse tirade en forme de conclusion, ouverte, pleine d'espoir, et l'on referme le livre là-dessus avec un franc sourire et une grande envie de déboucher une bouteille de vin vivant.
Merci Corinne Escafitte pour ce coup de projecteur sur Jacques Néoport que nous avions évoqué lors de la dernière émission avec Sandro Trescol, qu'il avait rencontré plusieurs fois. Et ben, vous parliez de déboucher des bouteilles, c'est justement ce que nous allons faire pour déguster le fruit du travail de Gauthier Olivier. Alors, on ne va pas encore déguster le fruit des vignes de Lugné. Ça, il faudra attendre encore un petit peu.
Oui, oui.
Et donc là, on va déguster votre production issue de vos vignes à Berlou.
Tout à fait, voilà. C'est un grenache d'un coteau. Le coteau du Labello, c'est un 100% grenache. Voilà. Extra lucide, 2021.
Très bien. 2021. 100% grenache. Alors, le grenache qui est un cépage, je crois, que vous affectionnez particulièrement.
Ah bah oui, pour moi, c'est le gamay du Languedoc, hein, ou du Sud. Hein. On fait tout avec le grenache. Et c'est un très beau cépage.
Que vous avez tenté de vinifier de manière très différente, à la fois pour des vins un peu glouglou, légers, au contraire des vins avec un peu plus de caractère,
voilà,
qui méritent un peu de garde.
Voilà, j'ai tout essayé avec le grenache et c'est vrai que...
Et tout marche du coup.
Tout marche, quand c'est réussi, je précise.
Et donc celui-là, alors, quel type de vinification vous avez réalisé ?
Eh bien tout bêtement, c'est une presse semi-directe, hein. Donc il n'y a rien d'autre à part une levure indigène sur pied de cuve, une presse, et c'est tout.
Presse semi-directe, ça veut dire que...
Ça a macéré un peu dans le pressoir, donc D'accord. C'est pas une presse avec les nouveaux pressoirs hyper techno où en une heure et demie c'est pressé, quoi. Ça a mis un peu plus de temps, donc c'est le temps de se macérer un peu dans la presse.
D'accord, voilà. Mais ça ne macère pas dans une cuve.
Non, ça...
D'accord.
Quand les raisins sont vraiment bien concentrés dans le pressoir, beaucoup d'anthocyanes se libèrent à ce moment-là. Donc plus la presse dure longtemps et plus on marque le jus, en
D'accord.
fait. Voilà.
Mais
donc.
Ça veut dire que vous attendez un peu avant de presser quand même ou vous mettez... La macération a lieu juste le temps de la presse
Oui, voilà, c'est ça, juste le temps de la presse. Donc c'est une presse qui a peut-être duré 4-5 heures. Donc déjà au bout de... une heure et demie pendant la presse, on voit que la couleur du jus commence à changer. Donc y a une légère macération qui se fait naturellement.
Et donc ça va donner un vin de quelle couleur?
On n'est pas sur un gris.
On va voir, il n'est pas encore dans nos verres, alors attention, surprise.
On est plutôt sur des reflets un peu rougeoyantes.
Un rosé cuivré.
Voilà, c'est ça.
Ambré,
oui. Voilà, ambré, oui, ça lui va bien. Et je précise qu'il n'y a pas de muscat.
D'accord.
Je pense que c'est important parce que...
Pour connaître la cuvée, en effet, le premier nez est quand même...
Le premier nez fait penser au muscat.
Évoque le muscat, oui.
Ouais.
Dans ce qu'il a de floral et un peu exubérant.
Il y en a, oui.
Alors, qui commence Frédéric,
Corinne, vas-y.
Eh bien voilà, non, une fois, moi je connais bien la cuvée, donc effectivement j'ai ce côté muscaté au premier nez, mais pas sur le côté d'ailleurs un peu souvent les gens ont peur de ça dans notre région, alors que le muscat donne des choses vraiment très élégantes si, oui, si on veut. Il n'y a pas que ça, mais c'est vrai, ce qui ressort au premier nez. Après, en bouche, non, on est assez surpris. J'ai mis un moment à trouver le grenache, mais avec l'ouverture, au fur et à mesure de l'ouverture de la bouteille, ça revient. Grande facilité à être bu, très agréable en bouche. Ça trace, mais ça reste quand même un petit peu persistant. Pour un vin dit plutôt de soif, il y a quand même voilà, il y a suffisamment de matière pour que ça reste et pour que on ait envie de se resservir.
Pour moi, c'est un souvenir de grand moment. La bouteille rafraîchie dans les gorges de la Colombière et servie sur un petit pique-nique, c'est une tuerie.
Et tu m'as pas invité.
Ils donnent pas ces coins de rivière. Ils les donnent pas. J'ai essayé.
Ça, ouais, c'est vrai. Et
comme je dis aux clients, souvent, ça, c'est une bouteille à boire seule avec une paille.
Ah oui.
Et on peut effectivement quand même, voilà, pour un vin facile, effectivement à boire dans le bon sens du terme, on peut tout à fait imaginer les petits fromages de chèvre et le glouglou de la rivière. Ouais, ouais, bien vu.
Ou un hiver des châtaignes. Non,
Oui, mais faut pas trop se peler non plus. Hein. Ouais. Pas devant la cheminée, en terrasse quand il fait encore beau.
Il fait des belles journées ensoleillées.
Et,
voilà.
Et alors, est-ce que ça, c'est un vin donc que vous imaginez refaire dans vos nouvelles vignes? Est-ce que le grenache de Lunier va se prêter à cette vinification? Est-ce que vous y avez déjà pensé ou il faut voir encore?
Je pense que c'est surtout le millésime qui me le dira.
Ah d'accord.
Je pars vraiment du principe que le millésime nous dicte un petit peu
le type de vinification
qu'on va faire. Mais oui, j'aimerais bien beaucoup refaire ce genre de vin.
Et donc là, pourquoi le millésime vous a orienté vers cette vinification? Qu'est-ce qu'il avait de particulier?
Eh ben, on partait sur des hautes maturités, mais avec une belle trame acide. Donc,
c'est-à-dire haute maturité, il y avait du sucre très vite.
Il y avait du sucre très vite, mais ça gardait une belle trame acide en fait, quand même dans l'expression quoi de la presse. On sentait quand même pas mal d'acidité même à travers les sucres. Et voilà, pour que la fermentation se passe bien dans le vin naturel, donc quand on n'ajoute rien, quand on a une bonne teneur en sucre, bah souvent les vinifications en fait sont plus fluides puisque les levures ont de quoi manger. Donc je trouvais ça intéressant de partir sur ce type de vinification, du moins en 2021 quoi, des vins faciles, fluides et avec pas mal de fruits en bouche. Voilà.
Un peu à l'image du millésime dans la région en tout cas.
Tout à fait. Ouais.
Assez aérien, mais à la fois de belles trames acides et des vins qui ne feront pas forcément de la garde, mais comme on n'a jamais le temps de les garder de toute façon, on n'a jamais assez.
On ne va pas lui demander de se garder, non. Ça se picole.
Et par exemple en 2022, est-ce que vous avez refait ça ou vous êtes parti sur autre chose? Le millésime vous a amené ailleurs?
Je suis parti sur des macérations plus longues. Je me suis peut-être assagi en fait en 2022. Le fait de me recadrer, si on peut dire, ou de me réinstaller, entre guillemets, parce que je suis quand même déjà installé. C'était peut-être l'année de la raison, quelque part, de me dire, bah tiens, je vais refaire des vins de papa.
Ah voilà. Oui.
Ouais, avec de la maturité, avec de l'expressivité, avec un peu plus de tanin, avec un peu plus de matière, un peu plus de plus des vins, ce que doit être le vin, on va dire, de table du dimanche chez mon père.
D'accord.
Voilà.
Déjà un peu plus sudiste aussi, peut-être, comme
plus
une
sudiste
de ses premières cuvées de grenache.
Ah bah, tu te souviens. Hein.
Pour le coup, j'ai réussi à garder assez longtemps.
C'est vrai. Mais il faut que je goûte.
Là, ça y est, c'est fini. Non, c'est
il n'y en a plus.
Ouais, ça y est.
Ah, dommage.
Mais un vin qui avait plus d'extraction et qui exprimait une autre facette du grenache.
Tout à fait.
Beaucoup plus solaire et sudiste.
Oui, c'est ça.
Très bien. Est-ce qu'on goûte une deuxième cuvée?
Ah bah oui, avec plaisir. La Freestyle.
Alors, Freestyle.
Eh ben, Freestyle, là, à l'inverse, c'est une 100% Syrah. Voilà, donc je fais que principalement que des monocépages. Et là, on est sur la parcelle des Pradel Nord et Pradel Sud. Donc, on est sur un coteau schiste plein sud. Et là, on est vraiment sur un vin assez... il porte bien son nom, hein, Freestyle, puisqu'il y a eu une légère macération et un élevage de 6 mois sous voile, voilà, à la jurassienne. Donc ça donne un vin complètement hybride, mais que je pense à une bonne buvabilité, quoi. Voilà, c'est un vin qu'on ouvre aussi pour les casse-croûtes, les copains, et qui peut aussi bien se boire aussi dans des plats de type Noël aussi, je pense, ou des fêtes. Je pense que c'est un bon hybride.
Hybride voilà. Entre l'esprit sud et l'esprit Jura
Ouais, dans l'esprit, il est digeste, mais il est tellement généreux qu'on peut le prêter aussi à des plats un peu plus copieux. Voilà, je pense que ça lui va bien.
D'accord, et ben voyons voir ça. On se laisse servir freestyle, donc freestyle, jeu de mots entre l'expression anglaise,
voilà.
Mais c'est écrit freestyle. Style, hein, fruit. Voilà. Donc,
le fruit
pour bien dire que le fruit est très présent et que vous voulez mettre ça en avant.
C'est ça, tout à fait.
Mais que c'est une vinification qui est un peu originale, hein, c'est ça que vous avez voulu raconter.
Oui, on est... oui, tout à fait.
Sous voile, justement, est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs de quoi il s'agit exactement, vinifier sous voile?
Oui, bien sûr. Alors, c'est la micro-oxygénation qui se fait principalement en barrique. Donc, en fait, il y a toujours une part, donc ça s'appelle la part des anges, qui s'en va dans les barriques. Et les Jurassiens avaient pour habitude donc, de laisser ce qui faisait tellement froid dans leur cave, de laisser vraiment le vin garder cette perte en fait dans les tonneaux, et souvent ça a conservé une certaine sucrosité, et vu que c'était des vins qui étaient assez relevés en alcool, ça permettait au vin à se détendre et à avoir un aspect beaucoup plus suave et digeste en fait en bouche. Dans le sud on n'a pas du tout une tradition de faire ce type de vin, et je trouvais ça intéressant vu qu'on fait des vins très solaires, comme disait juste titre Corinne juste avant, et je trouvais que ça pouvait peut-être s'y prêter sur une cuvée, donc j'ai voulu faire le test. Voilà.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'en disent nos chroniqueurs spécialistes de ce freestyle ?
Le côté oxydatif est lié au nez, mais après en bouche, il y a un équilibre qui se fait, donc c'est pas du tout ça qui prend le dessus, et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Il y a une richesse aromatique, et puis après en bouche, un équilibre, tout se fond, et ça donne un résultat très très gouléant, et en même temps avec de la structure. Comme tu disais, ça peut accompagner quelque chose de léger comme quelque chose d'un peu plus structuré.
Ouais, je suis complètement d'accord avec Fred là sur le coup. Il y a une très belle aromatique, c'est bien cohérent. Bon, on peut le dire, on l'a commencé un peu avant le moment de la dégustation. Il y a eu une belle évolution aussi, en quoi une demi-heure. Et très digeste à la fois, avec cette petite particularité au nez. Ouais, c'est assez piégeux. Très agréable. Hein.
C'est vrai que c'est... un très bel équilibre, parce que on sent effectivement qu'il y a de la structure, il y a du fond, et en même temps ça se voit très très bien, quoi. C'est presque aussi facile à boire que le premier, alors que il y a une trame quand même un peu plus complexe.
Il y a plus de volume, oui, ouais. Tout à fait, oui, c'est des vins que je déteste en fait quelque part, donc c'est toujours quoi. Je suis toujours content en fait d'arriver à quelque chose qui tienne la route ou des fois plus que la route selon les vins, quand je me mets en danger en fait. Donc pour moi, c'est peu importe le résultat, le fait c'est que je me sois mis en danger et que j'ai quand même réussi à faire quelque chose qui peut surprendre. Donc c'est voilà.
Je crois qu'on est tous d'accord, on peut l'inciter à continuer à faire beaucoup, beaucoup de tests.
Oui,
plein de tests.
Oui, parce que ça paraît très maîtrisé pour un test. Ça paraît très, très, très maîtrisé.
Non, pas tant que ça, là.
le résultat, en tout cas, est assez bluffant.
C'est gentil.
Merci, Gauthier et Olivier, de vous être prêté à ce jeu, de vous être raconté, de nous avoir fait partager votre travail et le fruit de votre travail.
Oui, merci à vous. Hein.
On vous souhaite bonne chance dans les nouvelles vignes.
Merci.
Il faudra qu'on vous réinvite du coup pour qu'on voit ce que ça donne.
Ah mais grand plaisir. Et je ramènerai les magnums là. Bon,
très
2023.
Très très bien. Très très bien. Merci Corinne Escafitte, Frédéric Lambeuf. Merci à Axel Sauvageon aujourd'hui à la technique dans les studios de Radio Pays d'Hérault. Merci aux auditeurs fidèles qui nous suivent sur Radio Pays d'Hérault, RPH Sud ou en podcast. Et merci plat à ceux qui nous rejoignent progressivement sur Radio Languedoc Narbonne. Mangez bien, buvez sain, on se retrouve le mois prochain. Hey, tapoko bala tuke 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 tak tuke toka tuke liga tuke raga tuke ligo ragunana bebe minuka petit kapuru en quelli koba tuke 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 tak tuke toka tuke liga tuke raga tuke liga ragunana bebe